Pascal Lismonde présente Le bonheur selon Épicure. Aujourd'hui, le hasard mène le monde avec Marcel Conche, philosophe.
L'acquisition de la sagesse, qui est l'objet même de la philosophie d'Épicure, repose sur son interprétation de la nature. Une interprétation très audacieuse qui se fonde sur l'atomisme de Démocrite, mais pour mieux le dépasser. Épicure s'en explique longuement dans deux longues lettres, à Hérodote et à Pitoclès. Il faut signaler d'ailleurs que la plupart des écrits d'Épicure ayant été perdus, ces deux lettres, avec celle à Ménécée sur le bonheur, constituent l'essentiel de l'exposé de sa doctrine, à moins que l'on ne retrouve de nouveaux rouleaux dans les fouilles que l'on a reprises récemment à Herculanum. Mais alors, quelle est donc cette vision du monde que nous propose Épicure, Marcel Conche ?
En ce qui concerne l'épicurisme, du moins le système d'Épicure, il faut commencer par distinguer les deux notions de monde et d'univers. Le monde, c'est l'ensemble de tout ce que nous avons sous les yeux. Et le monde, pour Épicure, est réel incontestablement. C'est-à-dire qu'il n'y a, au sujet du monde, il n'y a pas cette interrogation problématique qui sera celle de Descartes. Pour lui, le monde est d'abord une évidence, c'est l'évidence primordiale, et si nous n'admettons pas cela, le problème de la philosophie disparaît. Parce que si la philosophie existe, c'est pour expliquer ce que nous avons sous les yeux.
C'est la première donnée sensible, en fait,
voilà,
le monde.
Voilà, la première donnée sensible, oui, puisque c'est justement la sensation qui est le critère du réel. Il s'agit donc d'expliquer qu'il y ait ce monde, et par monde, donc, il faut entendre la totalité du sensible, y compris les étoiles. Par conséquent, les galaxies de l'univers d'aujourd'hui rentreraient dans ce que Épicure appelle le cosmos, le monde.
Mais y compris aussi des univers infinis, en fait, dont nous n'avons pas nécessairement la vision, parce que Épicure admet aussi l'existence d'autres mondes possibles.
Oui, justement. Donc, le monde, c'est ce qui est à expliquer, et l'univers, c'est ce que nous devons poser spéculativement pour comprendre que ce monde ait existé. Alors, par univers, il faut entendre la totalité des choses. Mais il faut comprendre que cette totalité n'est pas un tout structuré. Un organisme est une structure. Notre monde est structuré, et c'est la plus grande des structures. Mais l'univers est une somme infinie d'atomes et de vides. Alors, l'univers n'est pas sensible, n'est pas perçu, il est posé par la pensée, pour permettre justement d'expliquer que ce monde ait existé. Or, on ne peut expliquer l'existence de ce monde qu'en posant ce qui permet en même temps de montrer qu'il a dû en exister une infinité d'autres. Alors, ces innombrables autres mondes ne sont pas perçus, ne sont pas appréhendés par la sensibilité, et ils ne sont pas non plus appréhendés par la vision mentale, alors que les dieux, eux, sont perçus par la sensibilité mentale, mais il faut les admettre, parce que si ce n'était pas le cas, étant donné que nous avons posé dans l'univers infini une infinité d'atomes dans un vide infini, depuis un temps infini, qui se rencontrent et forment des amas et des ensembles, tout cela par l'effet du hasard, ce serait une chose absolument extraordinaire que dans cette infinité, dans cette immensité, il n'y ait eu justement qu'un seul monde. Parce qu'à ce moment-là, si c'était le cas, il faudrait admettre autre chose que le hasard. Par exemple, une providence qui aurait fait en sorte que dans cette immensité, à cet endroit-là, un monde se soit créé.
C'est-à-dire qu'à la fois, rien ne naît de rien, en fait, mais en même temps, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas un dieu créateur, il n'y a pas d'origine du monde.
Ah, il n'y a pas de dieu créateur parce que la notion de dieu n'est pas une notion explicative. Pour Épicure, si vous voulez expliquer ce monde que nous avons sous les yeux, avec la terre, le soleil, la lune, les étoiles, etc., en admettant un dieu créateur, à supposer que le monde soit différent, c'est-à-dire que la terre soit différente, qu'il n'y ait pas de montagne, par exemple, que la lune soit différente, qu'au lieu d'un certain nombre de planètes, il y en ait deux fois plus, eh bien, vous admettriez toujours l'existence du même Dieu créateur. Par conséquent, si vous admettez Dieu comme cause du monde, quel que soit le monde, c'est toujours la même chose. Donc, vous ne pouvez pas montrer dans la cause un détail qui permette de rendre compte du détail qu'il y a dans les faits. Par conséquent, la notion de Dieu n'est pas explicative. Et puis, la deuxième raison, c'est que Dieu, créateur, c'est un être spirituel. Or, le monde est matériel. Et nous ne percevons aucune intelligibilité de la relation de l'esprit à la matière. C'est pourquoi...
Oui, mais il pourrait y avoir une volonté organisatrice, ou plus exactement un ordre que l'on peut attribuer à une volonté organisatrice de la matière.
Oui, mais ici, les épicuriens ont un argument extrêmement subtil. Ils vous diront, ce Dieu organisateur fabriquerait, comme le démiurge de Platon, un monde. Mais d'où aurait-il tiré l'idée de monde, puisqu'il n'y en avait pas avant ? Autrement dit, les épicuriens pensent que les idées de quoi que ce soit supposent que ce dont on a l'idée existe déjà. Et ce Dieu organisateur, ce Dieu démiurgique, d'où lui serait sortie la notion de monde ? Et étant donné que ce serait un être spirituel, d'où aurait-il tiré l'idée de matière ? Les épicuriens préfèrent une explication matérialiste, c'est-à-dire en admettant un désordre universel, d'où naît l'ordre. Parce que si vous admettez la combinatoire produit tout, c'est-à-dire qu'elle produit non seulement une multitude de combinaisons désordonnées, mais aussi des ensembles ordonnés. Puisqu'autrement, il faudrait une sorte de providence qui choisirait. Mais à partir du moment où il n'y a pas de choix, tout se produit. Et l'ordre, c'est un cas particulier du désordre.
Et de plus, il n'est jamais fixe.
L'ordre n'est jamais fixe, non. Parce que si nous admettons que les atomes s'assemblant dans le vide infini d'innombrables façons différentes produisent des amas dont certains sont des nébuleuses qui n'ont pas de caractère structuré, et si nous admettons que malgré tout doivent se produire des ensembles structurés, c'est-à-dire des mondes, étant donné que ces mondes sont immergés dans un univers où il n'y a que des atomes et du vide, ces structures sont périssables, c'est-à-dire que les mondes ont un commencement, ils ont aussi une fin, et notre monde doit finir. D'après Lucrèce, ce monde existe depuis un temps ne doit pas être très long. Il est récent. Et il ne doit pas durer, semble-t-il, très longtemps, d'après lui. Comment finira-t-il ? Nous ne le savons pas. Il peut finir de différentes façons. En tout cas, il finira dans un immense écroulement général. Il y a déjà, dans l'infini, d'innombrables autres mondes, et il y en aura d'autres à l'infini.
Mais ce monde-là existe-t-il de toute éternité ?
À l'univers, oui, pas le monde.
Donc il y a quand même eu à un moment une création du monde.
Pas une création, mais un rassemblement, c'est-à-dire une combinaison d'atomes qui ont formé un ensemble organique structuré. C'est-à-dire que rien ne naît de rien, donc il n'y a pas de création à proprement parler, vous voyez ? C'est-à-dire que les atomes qui composent le monde sont éternels, à la différence des atomes de la physique moderne. Parce que la physique moderne admet que les atomes sont composés de protons, électrons, etc., mais les protons, les électrons ne sont pas éternels, tandis que l'atome d'Épicure est éternel. Alors, naturellement, il y a toute une théorie de la forme des atomes et de la grandeur des atomes afin d'expliquer la diversité des choses sensibles. Alors une différence avec Démocrite, c'est notamment celle-ci. C'est que Démocrite n'avait pas admis qu'un atome puisse avoir des parties. Parce que atome veut dire insécable, c'est-à-dire indivisible, en parties plus petites. Et pour Épicure, un atome est effectivement indivisible en parties plus petites. Mais vous pouvez, dans l'atome, penser des parties plus petites, que vous pensez, mais qui ne sont pas séparables. Si vous voulez, prenez un atome qui a la forme d'un trident. Alors, du fait que vous lui donnez la forme d'un trident, vous pensez trois parties. Vous le divisez en trois. Et c'est ce que Lucrèce appelle les minimae partes, c'est-à-dire les trois parties. Alors, un atome peut être considéré comme un ensemble de parties, et alors plus il y a de parties, plus l'atome aura de grandeur, mais étant donné que le nombre des parties sera fini, le nombre des grandeurs possibles sera extrêmement grand, mais tout de même fini. Et le nombre des formes possibles, lui aussi, est extrêmement grand, mais fini. Tandis que le nombre des atomes de chaque forme est, lui, infini.
Vous parlez de Démocrite, Marcel Conche. La philosophie épicurienne, il faut quand même le souligner au départ, c'est effectivement une sorte d'avatar de la conception du monde telle qu'elle a été présentée par Démocrite, et même auparavant par certains présocratiques.
Il y a une grande différence entre Démocrite et Épicure, c'est que Démocrite était un mathématicien. C'est pourquoi il envisage théoriquement la multiplicité innombrable des mondes possibles. Tandis que Épicure ne veut admettre que ce qu'il faut admettre pour expliquer justement ce monde. Épicure n'est nullement un mathématicien, et il considère d'ailleurs qu'il n'est vraiment pas nécessaire pour le bonheur de s'adonner aux mathématiques. Mais il n'interdit personne de trouver son bonheur dans les mathématiques. Alors ici, une différence entre Démocrite et Épicure est celle-ci. C'est au sujet du hasard. C'est que chez Démocrite, vous voyez, si vous considérez les atomes, donc ils sont dans le vide, et ils constituent des chaînes causales, ou bien si vous préférez des chaînes dynamiques, ou plutôt cinétiques, qui sont indépendantes les unes des autres. Et par conséquent, lorsqu'il y a rencontre de ces chaînes causales indépendantes, on a un fait de hasard. Par exemple, un monsieur marche dans la rue, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la météorologie, il reçoit une tuile sur la tête, cette tuile tombe par l'effet du vent, donc par une causalité météorologique. L'enchaînement des motifs qui ont fait que ce monsieur passait dans la rue n'a rien à voir avec l'enchaînement des causes météorologiques, donc lorsqu'il reçoit cette tuile sur la tête, c'est par un fâcheux hasard. Voilà. Épicure admet cela, c'est-à-dire qu'il admet qu'il y a des séries causales indépendantes dans la nature. Mais il pense que s'il n'y avait que cela, rien ne se serait créé dans la nature, c'est-à-dire que rien de nouveau ne serait apparu, la nature ne ferait que se répéter elle-même. C'est pourquoi il a ajouté une autre propriété de l'atome qui donne à la nature la propriété de créativité et qui fait que la nature est une sorte de champ d'initiative. Et l'homme fait partie de la nature et l'homme est aussi une puissance d'initiative. Et cette propriété, c'est ce qu'on appelle la déclinaison, c'est-à-dire le clinamen. C'est-à-dire...
Le clinamen qui sera défini en tant que tel plus tard par Lucrèce, précisément.
Vous avez tout à fait raison, oui. D'après un philosophe italien, Bignon, un passage de la lettre à Hérodote serait perdu. Et c'est dans ce passage qu'il était question de ce que Lucrèce appellera clinamen. Je préfère employer le mot latin, puisque Épicure, évidemment, ça serait parenthesis, c'est-à-dire le mot grec.
Et qui signifie donc la déclinaison, cette légère déclinaison, oui. Ou déviation plus exactement, oui, des
oui.
Atomes.
Oui. Alors, cette déclinaison de l'atome, c'est une propriété de spontanéité. Si on ne l'admet pas, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas expliquer. D'abord, on ne peut pas expliquer qu'il y ait eu des mondes, puisque les atomes à ce moment-là ne se seraient pas rencontrés, et on ne peut pas non plus expliquer le libre arbitre humain. Donc c'est une supposition que d'après eux, il faut faire si l'on veut expliquer un certain nombre de choses dont on a l'expérience. Et comme on a l'expérience du libre arbitre, comme le monde s'offre indiscutablement à nous, alors il faut accorder cette propriété à l'atome. Alors aujourd'hui, des savants comme Prigogine par exemple et d'autres ont vu tout l'intérêt de cette supposition qui rejoint les spéculations et les découvertes aussi de la physique au niveau subquantique, voyez, où on s'aperçoit qu'il y a probablement un désordre fondamental.
Oui, c'est-à-dire que la création du monde, dans cette occurrence, serait vraiment l'œuvre du hasard.
Épicure est opposé au nécessitarisme universel et aussi à la philosophie universelle du destin, et il admet la liberté de l'homme. Et alors, cette liberté est possible parce que l'avenir est encore indéfini, indéterminé pour une large part, de sorte que nous pouvons toujours apporter quelque chose de nouveau. Et par conséquent, en définitive, c'est vrai que, la philosophie d'Épicure n'aurait pas été possible sans celle de Démocrite, mais il ajoute une idée de liberté qui n'était pas présente manifestement dans le système de Démocrite.
Il faut se persuader tout d'abord que la connaissance des phénomènes du ciel n'a d'autre fin que l'ataraxie et une ferme confiance, comme aussi toutes les autres recherches. Il ne faut pas vouloir forcer l'impossible, ni avoir à l'égard de toute chose une théorie semblable au raisonnement sur les genres de vie, ou à ceux concernant la solution des autres phénomènes physiques. Par exemple, que tout est corps et nature intangible, ou que les éléments sont insécables, et toutes les choses du même genre, qui n'ont qu'une seule façon de s'accorder avec les phénomènes, ce qui n'est pas le cas pour les phénomènes du ciel, lesquels admettent plusieurs causes de leur production et plusieurs déterminations de leur essence en accord avec les sensations. Car il ne faut pas étudier la nature à partir d'axiomes vides et d'actes légiférants, mais comme le réclament les phénomènes. Notre vie, en effet, n'a pas besoin de déraisons et d'opinions vides, mais de se dérouler sans trouble.
Alors, en ce qui concerne la science, il est peut-être bon d'insister sur sa théorie des explications multiples, qui montre justement son indifférence vis-à-vis de l'explication scientifique. Parce qu'aujourd'hui, les savants cherchent l'explication scientifique d'un phénomène, l'explication vraie. Mais ils ne se posent pas la question de savoir si on en a besoin pour être heureux. Et la question d'Épicure, c'est vous, savants, dans vos laboratoires, vous, avec vos observations, vos recherches, vous cherchez à progresser indéfiniment vers la vérité au sujet des phénomènes, mais en résultera-t-il un bonheur plus grand pour l'homme ? Pour Épicure, il n'est nullement évident qu'il en résultera un bonheur plus grand, au contraire. C'est pourquoi il faut tout de même...
C'est-à-dire une vision d'un savoir complètement pragmatique, en fait, finalement.
Oui, cette notion de pragmatisme est assez juste. Mais à condition de penser le pragmatisme à la manière grecque, c'est-à-dire en vue de la sagesse et pas en vue de la puissance, de l'efficacité au sens du pragmatisme de William James et de ses auteurs-là. Ça ne veut pas dire que Épicure admette n'importe quelle explication pour un phénomène physique, par exemple l'éclipse. Alors, il y a des explications qu'il faut rejeter, ce sont toutes les explications qui font intervenir les dieux. Parce qu'à partir du moment où les phénomènes météorologiques ou célestes sont compris comme dépendants de la volonté des dieux, étant donné que cette volonté est arbitraire, on ne sait jamais ce qu'ils veulent au juste, à ce moment-là, on vit dans la crainte des dieux. Or, il est essentiel pour le bonheur de mettre de côté, de se libérer de toute crainte, que ce soit la crainte des dieux, de la mort, etc. Et par conséquent, il faut rejeter toutes les explications des phénomènes célestes ou météorologiques ou terrestres qui feraient intervenir un pouvoir divin. Mais, à partir du moment où vous avez une explication qui cadre avec l'explication atomistique, c'est-à-dire mécaniste, c'est-à-dire matérialiste, alors peu importe que vous expliquiez de telle ou telle manière un phénomène. Par exemple, une éclipse de soleil, je peux l'expliquer par l'interposition de la lune, mais je peux aussi supposer que c'est un autre corps opaque, ou bien je peux supposer que le soleil s'éteint, se rallume, etc. Ça n'a pas d'importance. Autrement dit, à partir du moment où c'est une explication qui me montre que les choses se passent de manière entièrement mécanique, c'est-à-dire où il n'y a aucune finalité, aucune providence, où il n'y a qu'une causalité ne signifiant rien, c'est-à-dire que les choses sont ainsi, c'est tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la moindre providence dans l'ordre du monde, tout est le fruit du hasard, et l'homme doit s'en accommoder, et s'il parvient à s'en accommoder, eh bien il a le bonheur, qui est la signification même de la philosophie.
Les atomes se meuvent continuellement durant l'éternité, les uns s'écartant loin les uns des autres, les autres, au contraire, gardant là même leur vibration, quand ils se trouvent pris dans un enchevêtrement ou enveloppés par des atomes enchevêtrés. Car la nature du vide, qui sépare chaque atome en lui-même, produit cet effet, n'étant pas capable de leur fournir un appui, et la solidité qui leur appartient, dans le choc, produit le rebond, dans la mesure où l'enchevêtrement permet, à la suite du choc, le retour à la position antérieure. Il n'y a pas de commencement à ces mouvements, les atomes étant cause, le vide aussi. Ainsi, il n'est rien qui fasse obstacle à l'infinité des mondes. Car les atomes, étant en nombre infini, comme cela vient d'être démontré, sont emportés même aux distances les plus grandes. Et d'autre part, de tels atomes, desquels pourrait naître un monde, et dont ils pourraient être constitués, ne s'épuisent ni en un seul, ni en un nombre fini de mondes, mais dans tous ceux qui sont tels que celui-ci, ni dans tous ceux qui diffèrent de ces derniers.
C'est fascinant, Marcel Conche, cette vision du monde donc, qui est pétrie d'atomes qui tombent, qui sont dans eux-mêmes lancés dans une sorte de mouvement perpétuel, qui se meuvent dans le vide et qui sont toujours là. En fait, on a l'impression d'une gigantesque matière en mouvement, quelle que soit finalement sa destination, puisque ce sera aussi bien un corps humain qu'un corps animal, qu'un corps végétal, que les montagnes, etc. etc.
Oui,
et c'est une vision du monde.
Cette vision du monde n'est pas tellement extraordinaire, eu égard à ce que nous enseigne aujourd'hui la physique, parce qu'elle nous montre bien aussi une matière en mouvement dans l'univers. La différence, c'est que l'univers de la physique moderne, c'est-à-dire l'univers d'Einstein, correspond à un monde d'Épicure. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'univers d'Einstein a été construit par le savant, mais sur la base de l'expérience, et en définitive de l'expérience sensible. Bien sûr, du calcul, de la mathématique, mais en définitive, c'est un univers expérimentalement vérifié. Tandis que l'univers d'Épicure, c'est une spéculation. Épicure ne conçoit pas la science expérimentale. Il reste un pur philosophe. Il juge inutile de chercher à vérifier son système par ce qu'on appellera plus tard des expériences cruciales. Ces expériences, il les conçoit, c'est tout. Aujourd'hui, Épicure dirait aux physiciens, votre univers, celui d'Einstein, correspond à ce que j'appelle un monde. Pouvez-vous dire qu'au-delà de cet univers, il n'y a pas d'autres univers ou mondes à l'infini ? Le physicien, naturellement, dirait que cela tombe en dehors de l'expérience possible, que c'est une pure spéculation, et Épicure dirait que c'est ainsi qu'il l'entend, mais qu'il ne peut être réfuté. Au sujet de l'atome, il faut bien voir que l'atome épicurien est différent de l'atome du physicien. En ceci, que l'atome d'Épicure est un principe. Nous mettons en lui un certain nombre de caractères, la simplicité, l'insécabilité, l'éternité, etc., que nous posons tout simplement pour pouvoir expliquer tout ce que nous voulons expliquer à partir de lui. Tandis que pour le physicien moderne, l'atome est infiniment riche, c'est-à-dire on en apprend toujours sur l'atome. Par conséquent, ce n'est pas un principe, c'est plutôt un objet de l'étude du physicien. C'est-à-dire, on découvre en lui le proton, le neutron, l'électron, ensuite les quarks, etc. Et on n'en finit pas. Il est infiniment riche. Tandis que l'atome d'Épicure a la pauvreté des principes. Mais dans les principes, il faut mettre le moins possible pour expliquer le plus possible. Et puis, la grande différence, c'est que Épicure est philosophe. Par conséquent, il veut rendre compte de la totalité des choses. Tandis que le savant n'a pas à se soucier de la totalité des choses. Il se soucie des phénomènes qui tombent sous l'expérience, que ce soit l'observation sensible ou bien l'expérience de laboratoire. Et à cet égard, il y a une grande différence.
Oui, le savant contemporain cherche quand même à rendre compte de la totalité du monde aussi, enfin, du moins de l'ensemble des explications possibles.
Oui, mais il ne sait pas si ce qu'il appelle le monde, c'est la totalité des choses. Comment pourrait-il affirmer qu'il n'y a rien d'autre, rien de plus, que ce qu'il appelle le monde ? Il se peut qu'il y ait Dieu, ou bien il se peut qu'il y ait un univers à n'en plus finir. Le savant moderne ne peut pas éliminer l'hypothèse Dieu. Ce n'est pas du tout son projet, son rôle. Tandis que, étant donné que Épicure est philosophe, il prend une position au sujet de la façon de concevoir la totalité des choses, et donc, étant matérialiste, il écarte l'hypothèse Dieu, de l'hypothèse monothéiste, et aussi l'hypothèse polythéiste, pour autant que les dieux seraient compris comme ayant un rapport avec les hommes, agiraient dans le monde humain, sur la terre, etc., puisqu'au contraire, il les conçoit comme n'ayant rien à voir avec les affaires humaines.
C'était Le bonheur selon Épicure par Pascal Lismonde avec la participation de Marcel Conche, texte lu par Jacques Lenoble, réalisation Arlette Dave. Demain, vérité et simulacre.